Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour partager une tasse de thé avec Janine Rogers, à la technique Simon Martin. Les romancières dont nous avons parlé jusqu'ici avaient usé de subterfuges pour faire imprimer leurs œuvres, avaient décrit des personnages et des paysages familiers et placé une intrigue romanesque au cœur de leurs récits. Nous étions au XIXe siècle. Avec le XXe siècle, nous abordons une nouvelle génération d'écrivaines. Il faut dire que la Grande-Bretagne va évoluer tout au cours du siècle. Et la littérature a accompagné cette évolution quand elle ne l'a pas incitée. Après le décès en 1901 de Victoria, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, la société va se transformer. Et la Première Guerre mondiale va faire beaucoup pour changer le statut des femmes, obligées de remplacer les hommes dans l'exercice de métiers que leur grand-mère n'aurait même pas pu imaginer. Je ne retiendrai que deux faits essentiels. En 1913, l'agitation suffragette. En 1918, le vote des femmes de plus de 30 ans. Je cherchais comment aborder avec vous une femme dont la vie personnelle et littéraire fut particulièrement riche. Et je préfère laisser la place à deux critiques, Olivier Barrault et Bernard Rapp, qui écrivirent en 2003, je cite, comment évoquer Virginia Woolf? Par quelle part de son identité l'aborder? Virginia Woolf, l'intellectuelle, l'éditrice, la romancière, la chroniqueuse, l'essayiste, la féministe, la dépressive. Nous aimons en tout cas celle qui illustre toutes les autres et disait « Il n'y a de vie réelle que de la conscience ». Ce n'est certes pas une personnalité facile d'accès. Ce n'est qu'après le décès de son mari en 1969 que l'on connut mieux ce que fut leur vie, spécialement après la parution en français, l'an dernier, d'extraits du volumineux journal de Leonard Woolf. Virginia Stephen est née à Londres en 1882 dans un milieu intellectuel. À la mort de son père, lui-même philosophe, se crée dans la maison familiale ce qu'on appellera le groupe de Bloomsbury, du nom d'un quartier de Londres où la famille habitait. C'est une sorte de cénacle avant-gardiste où se retrouvent des intellectuels de gauche. Chacun dans son domaine cherche à trouver de nouvelles formules d'expression en art, en littérature, en philosophie, etc. Le groupe se disloquera vers 1913. Participe à ces réunions un intellectuel d'origine juive, athée, responsable du parti travailliste, qui revient de Ceylan où il occupait un poste dans l'administration coloniale, avant de devenir anticolonialiste. C'est Leonard Woolf. Virginia et lui vont se marier en 1912. Il a 32 ans, elle 30. C'est un mariage d'amour. Il veillera sur elle jusqu'à ce qu'elle se suicide en 1941, à l'âge de 59 ans. Comment expliquer ce suicide? Il y avait du côté paternel de Virginia de lourds antécédents psychiatriques. Virginia elle-même fit une première dépression à l'âge de 13 ans. La médecine moderne a diagnostiqué, ce qu'à son époque elle ne savait pas faire, qu'elle était atteinte de psychose maniaco-dépressive. On peut alors se demander comment elle a réussi à accomplir une œuvre si diverse. La réponse est donnée par Cecil Woolf, neveu de Leonard. On ne pourrait pas parler de Virginia si Leonard n'avait pas existé, car elle n'aurait pas vécu assez longtemps pour écrire ses chefs-d'œuvre. Leur vie était un enfer, pour lui et pour elle, mais un enfer amoureux et superbement créatif. Cette vie, Léonard la raconte dans un petit ouvrage paru l'an dernier, intitulé « Ma vie avec Virginia », il y dit comment, à certaines périodes, je le cite, elle devenait très excitée, euphorique, ne cessant pas de parler, puis extrêmement agressive, alors qu'entre les crises de plus en plus fréquentes, elle était heureuse, gaie, appréciant tous les petits plaisirs de la vie. Le pire pour elle était qu'elle savait lorsqu'une crise se préparait. Le 28 mars, elle profite d'un moment où Léonard travaille dans le jardin de leur résidence de Cornouailles pour lui écrire une émouvante lettre d'amour, se rendre au bord de la rivière, y pénétrer les poches remplies de pierres. Alors voici sa lettre. « Chérie, je suis certaine que je suis en train à nouveau de devenir folle. Je sens que nous ne pouvons pas revivre ces moments si terribles. Et cette fois, je ne guérirai pas. Je commence à entendre des voix et je ne parviens pas à me concentrer. Alors je vais faire ce qui me semble la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as vraiment été tout pour moi dans tous les domaines. Je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses jusqu'à ce qu'arrive cette terrible maladie. Je ne peux plus lutter. Je sais que je te gâche la vie, que sans moi tu pourrais travailler, et tu pourras, je le sais. Tu vois, je ne peux même écrire cela convenablement. Je ne peux pas lire. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu as été extrêmement patient avec moi, incroyablement bon. Je veux dire cela. Tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, ça aurait été toi. Tout m'a abandonné, à part la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie. Je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses que nous l'avons été. » Alors, on va la chercher dans la maison, dans le jardin, mais elle est allée jusqu'à la rivière et on ne retrouvera son corps que 3 semaines après, je crois. Et auparavant, on avait remarqué sur le bord du fleuve son chapeau et sa canne. C'est donc vraiment tout à fait consciente à cette époque-là qu'elle a fait ce geste de pénétrer dans la rivière, et alors que l'eau a joué un très grand rôle dans ses écrits. Si je me suis longuement étendue sur la biographie de Virginia, c'est parce qu'elle va nous aider à comprendre son œuvre, comme va le faire un bref survol de ceux qui l'ont influencée, spécialement un Irlandais et 2 Français. L'Irlandais, c'est James Joyce, auteur d'un roman, Ulysse, paru en France en 1922. En France parce qu'en Angleterre, on a refusé de le publier. 1000 pages sans aucune ponctuation. L'histoire se déroule en 24 heures à Dublin, ville que parcourent 2 hommes. La nouveauté, c'est que Joyce raconte son histoire par l'intermédiaire du ressenti de ces 2 personnages. Un critique a dit « Nous voyons à travers leurs yeux et nous entendons à travers leurs oreilles ce qui se passe et ce qui se dit autour d'eux. » C'est la technique moderne du monologue intérieur, « the stream of consciousness » qui permet un accès direct à la pensée des personnages, tout en évoquant tout ce qui se passe autour d'eux, leurs sensations. Autre influence, celle du philosophe français Henri Bergson. Parti du principe qu'on ne peut cloisonner la vie, il pense que l'expression littéraire devrait devenir plus souple, plus ondulante, plus invertébrée, plus illogique, plus proche d'une musique continue. 3e influence importante, Marcel Proust. Rappelons simplement que pour lui, pas de récit chronologique. La vie intérieure se déroule suivant un flux de conscience qui peut abolir des notions classiques comme celle de l'incommunicabilité du passé et du présent. Il était nécessaire d'avoir ces notions en tête pour comprendre l'œuvre de Virginia Woolf, qui voulait atteindre un type d'écriture nouvelle, ce qu'elle réussit parfaitement. Dans une prochaine émission, nous ouvrirons ensemble le premier livre abouti de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, paru en 1925, édité à la Hogarth Press, qui était une maison d'édition créée par Leonard et Virginia 20 ans plus tôt. Ils y travailleront énormément, car ils éditeront non seulement chacun leurs propres œuvres, mais aussi celles de Freud et de beaucoup d'autres contemporains. Et Virginia prenait beaucoup de plaisir à cette activité manuelle qu'elle partageait avec son mari et qui leur prenait à tous deux beaucoup de temps. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'y étaient préparés. Rendez-vous donc avec Mrs. Dalloway dans la prochaine émission. D'ici là, bonne lecture en dégustant a nice cup of tea.